Vous savez, une église, c'est un endroit où on est encouragé parce que l'on entend, s'il y a des ajustements à faire, on en entend parler, on sait ce qu'il faut faire. Mais c'est un endroit où la présence tangible de Dieu est manifestée. La présence tangible de Dieu devrait être manifestée partout, où que nous soyons. Mais parfois, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie que les gens perdent un petit peu cette conscience de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on s'assemble, eh bien, on dit « Ah, là, je vais ». C'est un petit peu comme des plats, peut-être, que notre mère préparait, ou notre grand-mère préparait, étant jeune. Et puis tout d'un coup, des années plus tard, il y a cette odeur qui est là. Et on dit « Ah, je me souviens, oh là là, c'était magnifique !» Et peut-être on se rappelle des repas de famille, on se rappelle jouer avec les cousins, etc. Et quand on vient à l'église, il y a cette présence tangible de Dieu. On dit « Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien !» Du bien, peut-être que cette semaine, j'avais un peu oublié parce que il y a eu tellement de choses qui sont passées. Mais là, ça m'aide à rechercher encore cette présence dans la semaine. Donc c'est magnifique. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible avec moi, dans Romains chapitre 8, verset 29. Alors, la dernière fois, j'ai commencé à expliquer ce qu'était un disciple. J'ai repris un concept qui n'est pas nouveau, parce qu'on a l'impression que le mot « disciple » est un mot qui est arrivé hier. Mais à vrai dire, l'idée du discipula et non pas du disciplina, comme j'ai dit dernière fois, ce concept-là, eh bien, existait avant que même Jésus naisse. Parce que c'est de cette manière-là que la foi juive se retransmet et que notamment les rabbins enseignent ceux qui les suivent. Donc les chrétiens, quand ils entendent ce mot disciple, très souvent ils se disent « Oh là là, c'est un mot nouveau ». À vrai dire, ça n'est pas ce mot qui est nouveau. Le mot disciple n'est pas nouveau. Mais le mot chrétien l'est. Vous avez vu qu'aucun chrétien ne suivait Jésus. Tu dis, pourtant, comment ça? Aucun chrétien? Non, aucun chrétien n'a suivi Jésus pendant son ministère. C'était des disciples. Le mot chrétien n'existe pas dans les évangiles. En revanche, quelques années plus tard, dans le livre des Actes, la Bible nous dit que c'est à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Et pour la première fois, à Antioche, des années après la mort de Jésus, Jésus est remonté au ciel. Là, le mot chrétien est arrivé. Aujourd'hui, les chrétiens sont habitués à ce mot-là. Mais c'est presque comme le mot disciple avait disparu. Or, le mot chrétien, à vrai dire, a été donné aux disciples, mais par des non-juifs. Eh oui, c'était à Antioche. Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut que nous reprenions un petit peu le sens de ce mot « disciple de l'Éternel », « disciple de Jésus ». Et la dernière fois, je vous ai expliqué comment un rabbin s'y prenait pour faire un disciple. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement retransmettre la foi dans le sens retransmettre la doctrine, mais c'est amener celui qui apprend à ressembler à son maître. Et l'idée, c'est que le disciple marchait tellement près du rabbin que la poussière couvrait la poussière des pas du rabbin. Là, c'est la neige, donc. Mais ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai envoyé des... Voilà, ça y est, on voit. Mais hier, j'ai envoyé des images à notre webmaster et puis je les ai envoyés à mauvaise adresse. Ce matin, je les ai renvoyés quand je me suis rendu compte de ce qui s'était passé et il ne les a pas reçus. Donc, il a été obligé d'en chercher en vitesse, ce que j'apprécie, ne connaissant pas le sujet. Donc, d'où la neige. Mais l'idée, c'est un rabbin qui marche dans le sable, qui marche dans le désert, qui marchait sur les poussières des rues au temps de l'Antiquité. Vous imaginez qu'il y avait de la poussière. Et le disciple suivait tellement plus que, à vrai dire, c'était la phrase qui était dite à un disciple, puisse la poussière des pas de ton rabbin te couvrir. Dans Romains, chapitre 8, verset 29, il faut savoir ce que Dieu a comme intention quand il nous a appelés à être les disciples de l'Éternel. Il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Alors je ne vais pas parler de l'enseignement de l'élection en sachant que Dieu connaît tout d'avance et il ne choisit pas qui va naître de nouveau et qui va être sauvé, qui va avoir la vie éternelle. Mais il est certain que la Bible nous dit que Jésus est mort pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde est élu, ce ne sont pas les anges, le salut ne s'adresse pas aux anges, le salut ne s'adresse pas à des créatures extraterrestres, le salut ne s'adresse pas à des créatures célestes, le salut est envoyé, a été conçu pour la race humaine. Et dans son omniscience, Dieu sait qui va accepter le salut, qui va accepter le pardon des péchés, qui a été acquis à la croix, ou au contraire, qui va le rejeter. Mais ce n'est pas Dieu qui choisit. Toutefois, la Bible nous dit que ce que le Père a en tête, c'est que nous soyons rendus semblables. Une autre version, je vous la lis ici, dit ce que d'avance il a connu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils. Et la raison pour laquelle, eh bien, nous sommes appelés disciples de Jésus, c'est parce que, à force d'apprendre de lui, eh bien, nous soyons rendus conformes à son image. Dans notre esprit, la Bible nous dit clairement que l'être humain est un être tripartite, c'est-à-dire que nous sommes un être spirituel, nous avons une âme qui est le siège de nos émotions, de notre volonté, l'émotion, volonté et l'intelligence, merci. Et nous habitons dans un corps, mon corps n'est pas moi, je porte mon corps comme je porte un vêtement. Donc, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons, nous, être spirituels, nous avons été changés en un instant, nous sommes nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, nous avons reçu la vie de Dieu, cette vie nous a changés, et oui, nous sommes à l'image de Dieu, mais il y a deux autres parties de nous qui n'ont pas été touchées instantanément par la rédemption, notamment notre âme. Et quand il est dit de travailler à notre salut, ça n'est pas pour travailler, de faire quelque chose pour gagner le salut parce qu'on l'a déjà reçu, mais c'est de travailler, de laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans notre âme. Et la raison est dans notre corps. La volonté de Dieu dans notre corps, c'est que notre corps soit guéri, c'est que notre corps reste en bonne santé. La volonté de Dieu pour notre corps, c'est qu'il soit fort, c'est qu'il nous obéisse au lieu de lui obéir, de faire tout ce qu'il nous dit de faire, parce que notre corps parle. Tu n'as jamais entendu ton corps te dire « j'ai faim » quand c'est pas l'heure, entre autres. Et la Bible nous dit que le but de Dieu, c'est que non seulement, eh bien, oui, notre être intérieur, nous en tant qu'être spirituel, nous sommes rendus semblables au Fils de Dieu parce que sa vie, sa qualité de vie est en nous, mais que notre vie sur terre, et la Bible dit nous sommes appelés à régner. Donc la question est-ce que Jésus a déjà échoué quelque part ? Est-ce que Jésus s'est déjà laissé submerger par ses émotions ? Est-ce que Jésus a laissé son corps faire n'importe quoi ? Est-ce que Jésus a su résister au péché ? Est-ce que Jésus a su comment exercer l'autorité qui lui avait été donnée du Père ? Est-ce que Jésus connaissait la volonté de Dieu et connaissait le futur qu'il attendait ? La réponse est oui. Et la Bible nous dit que Jésus est venu et il s'est dépouillé de sa divinité. Il est venu comme un simple homme. Et dans cet exemple-là, eh bien, la Bible nous dit que nous devons devenir ses disciples. Donc nous devons marcher suffisamment près de Jésus. Bien sûr que nous sommes en lui, il est en nous dans le sens, nous sommes un avec nous, avec lui, nous sommes unis à lui. Oui, évidemment, sa vie est en nous. Mais qu'en est-il du fait de mettre en pratique ce qui est à l'intérieur, de vivre l'intérieur vers l'extérieur? Qu'en est-il de cela? Et la Bible nous dit que c'est pourtant le plan de Dieu. Que nous soyons sur cette terre, ou alors que nous vivions au ciel, la volonté du Père est que nous soyons esprit, âme et corps, conformes à son Fils, et la Bible dit que nous régnons dans la vie. Seulement, il se trouve que tout ce que nous avons appris sur cette terre va à l'opposé des principes de Dieu. Tout. Si bien que si nous vivons avec la vie de Dieu en nous, mais que nous continuons à penser comme quand nous étions sans Christ, nous n'allons jamais voir les résultats de la Bible. Nous n'arriverons jamais à expérimenter le standard de vie que Jésus a vécu en tant qu'homme sur terre. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Encore une fois, il y a une image qui est en nous maintenant, dans notre cœur, mais cette image, nous devons la vivre dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous voulez bien regardez dans Luc chapitre 14, ce sera du verset 25 à 35, mais en attendant, je vais vous lire Luc chapitre 6, verset 40. Il nous est dit, le disciple, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître, et on a compris que dans la pensée de Dieu, c'est que quand quelqu'un naît de nouveau, il est un disciple, il n'est pas un chrétien et un jour deviendra un disciple. Dans la pensée de Dieu, quand quelqu'un naît de nouveau, immédiatement il emboîte les pas de son maître et il marche tellement avec le Seigneur qu'on ne sait plus si c'est Jésus ou lui qui parle. Il est dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc vous voyez qu'il n'est pas dit le chrétien bien formé. Je l'ai réalisé ce matin quand j'étais en train de me préparer, figurez-vous. Je n'avais jamais réalisé cela. J'ai dit, mais attends, le mot disciple était un concept qui était déjà, qui était biblique avant que l'Église ne naisse. Et ce n'est que des années plus tard que le mot chrétien est venu. Et il est venu des gentils, des non-juifs ont donné ce mot. Oui, il est noble parce que chrétien veut dire comme Christ, mais le vrai mot, c'est disciple. Vous allez trouver Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant ça? Alors on va lire, merci de faire suivre les versets. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ?» Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à sa rencontre, à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Et après, le sel, c'est certainement un autre sermon. Ce que j'aimerais souligner, c'est que oui, le Seigneur veut que nous soyons à son image, mais pour cela, il n'y a pas 36 manières. C'est de le suivre. C'est de marcher avec lui. Cela ne se fait pas à 3 kilomètres de distance, c'est vivre avec le Seigneur de manière, quand je dis très proche, eh bien les gens se disent, ah mais très proche, Jésus n'est pas là physiquement. Cela veut dire avec la conscience, Jésus est une personne, notre Seigneur est une personne, vivre avec la conscience du Seigneur. Et la Bible nous dit, par le discipulat, c'est-à-dire que par la pratique de suivre le Maître, nous sommes rendus conformes à l'image de Christ dans notre vie quotidienne. Mais la Bible nous met en garde qu'il y a 3 choses qui empêchent le fait de vivre comme un disciple. Et ma question est, si un chrétien né de nouveau ne vit pas comme un disciple, à qui ressemble-t-il? Il faut qu'on se pose la question. Alors oui, à un chrétien, non, on va changer de vocabulaire. On va garder le mot disciple. Si un homme, une femme, un enfant né de nouveau ne vit pas comme un disciple de Christ, ne marche pas avec la conscience du Seigneur, à l'image de qui est-il semblable? Bon, je ne dirais pas jusqu'à l'image du diable, mais à l'image de lui-même. C'est-à-dire qu'on voit trop, de nous. Or la Bible dit, nous sommes, l'idée de Dieu, c'est que nous soyons conformes à l'image de Christ. Alors nous allons voir ces 3 choses, ces 3 exigences. Le Seigneur n'est pas en train de suggérer quelque chose. Il nous dit clairement, voilà, telle et telle chose empêche de vivre comme un disciple, c'est-à-dire empêche d'entendre la voix du Maître clairement, empêche de ressembler au Maître, empêche de régner dans la vie, et on va le voir, nous empêche d'aller vers notre destinée. Première chose, au verset 26 de Luc 14, il est dit, « Ici, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Waouh ! Non, mais il est chrétien. Non. La Bible dit, il ne peut être mon disciple. Alors, ici, vous remarquez que le Seigneur n'est pas en train de nous demander. Le verbe, c'est le verbe haïr, qui est employé dans différentes versions. Le Seigneur ne nous demande pas de haïr quelque chose de détestable comme le péché. Il nous demande de haïr des gens qu'on aime, des gens qui nous sont proches, Et on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes là? Alors, il faut bien dire qu'il ne s'agit pas de haïr dans le sens de ne plus aimer notre père, notre mère, notre époux, notre épouse, nos enfants. Ça n'est pas dans ce sens-là. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, ne place pas ce que tu aimes au-dessus de ta marche avec moi, au point que tu ne puisses pas faire ce que je te demande de faire. Vous vous rappelez ce qu'il nous est dit dans Galates chapitre 1? On parle du disciple, on ne parle pas du chrétien. On parle du disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui entend la voix de Dieu, quelqu'un qui exerce son autorité sur les démons. Il n'y a pas besoin de passer 150 ans. Dans le nom de Jésus, tu arrêtes de faire ce que tu fais là. Et la personne est libérée. On parle de quelqu'un qui voit un miracle quand il a besoin d'un miracle. On parle de quelqu'un qui n'a pas peur de la direction que prend l'économie. On parle de quelqu'un qui n'a pas peur de voir ses enfants qui s'engagent dans la mauvaise voie parce qu'il sait que Dieu a entendu ses prières et qu'à la fin, ça va bien se terminer. On parle de quelqu'un qui règne dans la vie. Dans Galates, je vous le lis simplement, Galates chapitre 1, verset 10. Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si j'en étais encore? À plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Alors on pourrait dire, mais ça c'est pour ceux qui sont dans le ministère, les pasteurs et tous les autres. Non, servir Christ à 100%, c'est le disciple. C'est celui qui est né de nouveau. Il faut que l'on arrête de mettre une séparation entre le clergé et les laïcs. Ça, mes amis, c'est le langage mondain. C'est un langage profane. Un enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Certains vivent de ce service, comme les pasteurs, et d'autres, pas encore. Mais nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et parfois, eh bien, on cherche à tellement faire plaisir à ceux qui nous entourent qu'on ne se rend pas compte que la poussière du maître ne nous couvre plus. Le test, bien évidemment, c'est celui qu'Abraham a dû passer bien avant que cette phrase ne soit retranscrite dans le canon des Écritures. On se rappelle que le Seigneur a demandé à Abraham dans Genèse chapitre 22, je vous le lis simplement, verset 2, « Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham, alors le Seigneur ne demande pas des sacrifices humains, gloire à Dieu, mais néanmoins, le Seigneur a voulu montrer à Abraham que sa relation avec son fils l'empêchait de marcher vers sa propre destinée. Et parfois les familles ont besoin de se rappeler que chacun dans la famille a sa destinée. Bien sûr qu'il y a une destinée sur la famille, il y a une particularité sur la cellule familiale et c'est pour cela que le diable cherche tellement à la détruire. Mais dans la cellule familiale, eh bien, il y a des individus et chaque individu a une destinée particulière avec Dieu et rien ne peut prendre la place de cette destinée. Quelquefois, on aime être noyé dans la masse, même dans la masse familiale, mais pas devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes des individus. Et le Seigneur a mis le point sur Abraham. Abraham avait une destinée toute particulière. Abraham est appelé le père des croyants. Il est le père de la race juive. C'est pas une race d'ailleurs, de la lignée juive. Mais la Bible dit que la foi d'Abraham qui a été reçue par les non-juifs, Abraham est le père des croyants. Donc vous imaginez la destinée qu'il avait cet homme-là. Et cette destinée était mise en... était sur le fil. Et le Seigneur a dit, tu sais Abraham, ce que tu as de plus cher, tu vas me le donner. On sait que Abraham n'a pas tué son fils, ça n'est pas ce que voulait Dieu. Mais Dieu voulait qu'Abraham arrive au stade où rien rien, même le fils de la promesse, rien ne l'empêcherait de faire ce qu'il avait à faire. Et c'est pas simplement qu'Abraham aurait pu être empêché d'aller vers sa destinée, mais par son amour, il aurait paternel, il aurait pris peut-être le risque d'empêcher son fils d'aller vers sa destinée. On entend parler des mères juives, mais il y a les pères juifs. Je suis docteur, tu seras docteur. C'est comme cela. Je te donne mon cabinet, je te donne ma clientèle, je te donne tout. Pas forcément. Abraham a dû se rappeler que qu'il ne pouvait pas aimer quelqu'un plus qu'il n'aimait Dieu. Abraham a passé le test et résultat, rien ne l'a séparé de Dieu et Abraham n'a rien perdu. Abraham n'a perdu ni ses troupeaux, ni ses possessions, ni son fils, ni sa relation avec Dieu, ni sa foi. Abraham a tout gardé lorsqu'il a accepté que son amour pour Dieu passe en premier. Question, est-ce que vous aimez tant votre époux, votre épouse, que vous n'arrivez pas à passer de temps avec Dieu? Est-ce que vous parlez tant à vos amis que vous n'avez plus rien à dire à Dieu? Est-ce que vous adorez tant vos enfants que la louange à Dieu ne veut plus rien dire? Deuxième chose qui peut nous empêcher d'être un disciple. Luc chapitre 14, verset 27. Est-ce que vous n'avez trouvé qu'une image ou vous en avez d'autres? Oui, voilà. Au fur et à mesure, Alors, j'avais des images magnifiques de pas. Bon, malheureusement, mais bon, là, c'est bien, j'en vois. Elle est bonne, celle-là. Ça, c'est des pas de géant, hein? Luc chapitre 14, verset 27. Alors ce sont des paroles qui semblent très dures. Elles ne sont pas dures dans le sens qu'elles sont injustes, elles sont dures dans le sens qu'elles sont radicales. Parce qu'on ne peut pas être un disciple ou ne pas être un disciple. On ne peut pas être né de nouveau ou on est plutôt né de nouveau ou pas né de nouveau. On ne peut pas être à moitié. On a la vie éternelle ou on n'a pas la vie éternelle. On a reçu le pardon de nos péchés ou on n'a pas reçu le pardon de nos péchés. On est disciple ou on n'est pas disciple, mais on ne peut pas dire je suis à moitié. Et le Seigneur nous dit, quand nous sommes nés de nouveau, il nous considère comme un disciple et il nous appelle à marcher avec le Seigneur. Et il nous dit, quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc chapitre 9, verset 23, je vous le lis. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Une autre version dit, donc c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir avec moi, vous êtes prêts? Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Alors, on pourrait dire, mais waouh, Seigneur, tu es en train de me demander de renoncer à moi-même. Est-ce que cela veut dire que tu me demanderais de ne plus m'aimer? Ah non, ça c'est impossible. D'abord, alors il faut réaliser que nous sommes dans une société, les gens disent oh, on manque d'amour. Ah non, non, l'amour de soi, il est plus grand qu'il a jamais été. Tout est moi, je et I. Encore une fois, iPhone, iPad, I, tout ce que vous voulez, tout est I. En anglais, c'est je. On est dans une société où on apprend à s'aimer. Alors, évidemment que la Bible nous dit que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Quand quelqu'un n'aime pas les autres, il est en train de me dire « je ne m'aime pas moi-même, c'est pour cela que je ne sais pas comment t'aimer ». Donc le Seigneur n'est pas en train de nous dire « arrête de t'aimer », mais le Seigneur nous dit « ne sois pas obsédé par toi-même ». Au point où tu ne puisses plus penser à ce que je te demande et à l'avenir éternel qui est devant toi. Donc quand le Seigneur dit, eh bien, qu'il me suive, qu'il porte sa croix, non mais vous imaginez, nous on est aujourd'hui, qu'il porte sa croix. Alors on va avoir parmi nous quelqu'un qui va venir avec une croix, une très grande croix, et on va aller sur la promenade des Anglais. Mais ça c'est autre chose, on en reparle plus tard. Mais imaginez, on repart dans l'Antiquité, on vit il y a 2000 ans, nous sommes dans les rues de Jérusalem, ou alors imaginez-vous peut-être dans le vieux Nice avec les rues pavées, avec des ânes, des chevaux, des charrettes, il n'y a pas de voiture, pas de Ferrari, rien. Et nous sommes là, nous entendons ces paroles. Et nous ne sommes pas en train de nous dire « Waouh, Jésus, dis donc, ce que tu dis, c'est un peu hard là. » Non, 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 non. On pense immédiatement à cette fameuse croix romaine. Et croyez-moi que dans les rues de Jérusalem, dès qu'ils voyaient quelqu'un qui portait cette fameuse croix, ils ne la portaient pas « je vais me balader ». Cette croix était lourde. Normalement, il avait déjà subi un certain châtiment et là, c'était le clou du spectacle, c'est le cas de le dire. Certains se sont réveillés, d'autres ne comprennent pas ce que j'ai dit, c'est pas grave. Mais toujours est-il que, à quoi il pensait il y a 2000 ans quand il voyait quelqu'un qui portait sa croix ? Il pensait à quelqu'un qui allait être crucifié. Et le Seigneur ne nous demande pas de mourir par punition. Le Seigneur nous demande d'accepter de crucifier notre chair, c'est-à-dire de mettre un terme à toutes les anciennes manières de faire et de penser que nous avons connues avant Christ. C'est-à-dire quand le Seigneur nous dit « renonce à toi-même », eh bien c'est évidemment par rapport à une comparaison avec la vie du Maître. On ne renonce pas à soi-même pour ne plus exister. L'idée n'est pas « tu es rien et tu ne vaux rien et tu n'existes pas ». L'idée est « afin que tu sois rendu conforme à l'image de Christ ». Et certains pensent tellement à leur carrière, pensent tellement à ce qu'ils veulent, au projet qu'ils ont, et qui ne sont pas mauvais nécessairement. Mais ils pensent tellement à eux qu'ils n'arrivent plus à donner de l'espace à la pensée de Christ. Et ils marchent 3 kilomètres derrière, ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des disciples. Luc chapitre 9, j'aimerais vous montrer quelque chose ici. Luc chapitre 9, verset 24. Il est dit, en effet, on a tous entendu cette parole-là. En effet, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et alors là, c'est le genre de jeu de mots où on a les yeux qui se croisent. Et on dit, répète s'il te plaît. Donc je vais répéter. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perd sa vie à cause de moi, dit le maître, il la sauvera. Et vraiment, pour comprendre ce verset, eh bien, il faut savoir que le mot vie ici en grec, c'est psyché, psuché. Je ne suis pas sûre de la prononcer, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que la définition, c'est l'âme. Tu dis, oulala, qu'est-ce que tu me dis là? En effet, celui qui veut sauver son âme la perdra, mais celui qui perd son âme à cause de moi la sauvera. Bah, dit comme ça, c'est pas très marrant, parce qu'on a entendu dire, tiens, il a donné son âme au diable. Mais ça veut dire quoi? Non, ici, celui qui veut sauver sa vie, c'est-à-dire ses ambitions, ses projets, ses buts, sa façon de penser, qui veut garder sa propre volonté, la Bible nous dit, il perdra, il n'arrivera pas de lui-même au bout de sa propre destinée. Mais celui qui acceptera la façon de penser de Dieu, les buts de Dieu, les ambitions du Seigneur, celui-là trouvera sa propre destinée. C'est ce que ça veut nous dire ici. On a à gagner à marcher avec le Seigneur. On a à gagner à suivre Jésus. Quand on abandonne nos propres ambitions, nos propres buts, nos propres désirs, pour faire en sorte d'être rendu conforme à l'image de Jésus, alors on découvre son plan et ses intentions à notre égard. C'est-à-dire que celui qui dit « Oh, bon, ben moi, Jésus, d'accord, j'ai reçu le pardon de mes péchés, j'ai reçu la vie éternelle, mais franchement, la manière de vivre sur terre, Seigneur, cela, je me la garde. » Parce que j'ai mon idée, je sais comment développer une carrière, je sais que faire avec ma famille, je sais dans quelle université amener mes enfants. La Bible nous dit que celui-là ne découvrira jamais ce que le Christ avait pour lui. C'est-à-dire qu'il va vivre en dessous du niveau auquel il était prévu qu'il vive. Donc renoncer à soi-même, renoncer à ne penser qu'à soi, pour être rendu conforme à l'image. Il y a des gens qui font des efforts pour être rendu conforme à l'image de Christ. Oh, il faut que je fasse ceci, il faut que j'arrive, que j'arrête de faire cela. Mais on ne peut pas se rendre conforme à l'image. L'idée, c'est être rendu, c'est-à-dire que quand je vois Jésus tel qu'il est, ce que je vois fait quelqu'un de nouveau de moi. Il me rend conforme à son image, encore faut-il qu'on lui laisse le temps de le faire. Luc chapitre 14, verset 33. Vous savez, tout le monde veut imposer les mains aux malades et voir les malades guéris. Tout le monde veut exercer son autorité voir une personne libérée. Tout le monde veut prononcer une parole d'encouragement sous l'onction. Tout le monde veut savoir quel sera notre avenir. Tout le monde veut savoir ce qu'on fait sur terre. Tout le monde veut avoir de bons conseils à donner aux enfants. Personne ne veut se tromper dans leur éducation. Mais il y a une manière qui est bonne, et c'est celle du Seigneur. Dans Luc chapitre 14, verset 33, donc on voit, hein, le Seigneur nous a dit ne pas laisser notre vie avec nos proches nous empêcher d'aimer Jésus. Ensuite, on a vu ne pas s'aimer soi-même au point de ne plus pouvoir suivre le Seigneur parce qu'on est sans cesse préoccupé, on pense sans cesse à soi. Et puis il y a une troisième chose ici, il est dit, Luc chapitre 14, verset 33, « De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut être mon disciple. » Ici, on n'est pas en train de suivre Jésus sur Twitter. Par moment, juste pour entendre une jolie petite phrase qui va nous encourager. Ici, le Seigneur est radical. Il s'agit de dire au revoir à ceux qui nous empêcheraient de le suivre. Et pas simplement marcher avec lui le dimanche matin, quand il n'y a aucune pression, qu'il y a une liberté de l'esprit, c'est vivre avec Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une vie nouvelle, la vie de Dieu en soi, et qui va au travail avec cette vie, qui élève ses enfants avec cette vie, qui va faire ses courses avec cette vie, qui est à la maison avec cette vie, qui parle à la maison avec cette vie, qui salue ses voisins avec cette vie. C'est ça la vie du disciple. Nous sommes des gens qui vivons sur cette planète, mais avec la vie de Dieu en nous. Et cette vie-là, elle doit se voir. Et elle se verra à condition que nous suivions ce que le Seigneur nous dit de faire. Et il nous dit de faire, pas pour nous compliquer la vie, pour que nous nous trouvions. Pour que nous trouvions ce que nous faisons sur ce que nous sommes appelés à faire sur terre, pour que nous trouvions les ressources qui sont à notre disposition. C'est pour nous. C'est pour nous que le Seigneur nous invite à marcher avec lui. À moins que je n'accepte que tout ce que j'ai lui appartient, je ne peux pas vivre la vie du disciple. Et tu as compris, tu as bien compris que Dieu ne va rien nous enlever. Dieu ne prend pas. Dieu ne va pas dire, oh tu sais la voiture que tu as, tu sais, tu en profites tellement maintenant que je ne te vois plus. Donc, je vais te la prendre. Ce n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme cela. Dieu nous dit, regarde, tu as voulu telle chose, tu as voulu une maison plus grande, tu as voulu un meilleur travail, tu as voulu un enfant de plus. Je te le donne. Mais est-ce qu'avec ce que je donne, tu me connais mieux? Ou est-ce que tu ne penses qu'à toi maintenant? C'est vrai pour nos proches, c'est vrai pour nous, notre personne. Et la Bible nous dit, c'est vrai pour nos biens matériels. Combien de fois je n'ai pas vu des gens qui ont accepté le Seigneur, qui ont entendu tout ce que le Seigneur voulait leur donner, ce qu'il a payé pour eux à la croix. Et ils ont dit, waouh ! Ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont pratiqué la parole de Dieu. Le Seigneur les a bénis et on ne les revoit plus. Moi, juste, j'ai une question. Combien de temps vont-ils garder ce qu'ils ont eu en sachant que ce que Dieu nous donne, il nous le donne avec sa sagesse? Et si je perds cette conscience de Dieu et je cesse de lui demander son conseil, je cesse de m'approcher de lui parce que je suis trop occupée avec mes jouets, eh bien à un moment, la sagesse dont j'ai besoin pour garder ces jouets, je ne l'aurai plus et ça se retournera contre moi. Ce sera même pas le diable qui fait quelque chose, certainement c'est pas Dieu qui ne nous veut que du bien. Mais ce sera moi qui me sera mis dans ces problèmes-là. Je vous lis simplement cela, on se rappelle qu'il y a un jeune homme qui vient vers le Seigneur et le Seigneur dit, et le jeune homme dit à Jésus, « Ah, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Bah, t'as tel commandement, tel commandement, tel commandement. » Et le jeune homme dit, « Non, non, mais c'est bon, je respecte tout. Nickel. » Et Jésus va mettre l'accent sur quelque chose qu'il n'a pas considéré. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Le Seigneur voit des défauts en nous et il nous aime. C'est extraordinaire. Et il lui dit, une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais à cette parole, il s'assombrit et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. La Bible ne nous dit pas de tout vendre. C'était lui ce qu'il avait besoin de faire, parce que Jésus était en train de lui dire, tu ne pourras jamais devenir mon disciple, parce que ton cœur est trop attaché aux biens matériels. Une des raisons pour lesquelles nous apportons notre dîme, c'est pour nous rappeler que nous ne pouvons pas nous attacher aux biens matériels, mais que quoi que ce soit que nous ayons, nous faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur n'est pas en train de nous demander de faire un vœu de pauvreté, comme ça a été mal compris, mais à nouveau, il ne veut pas que quoi que ce soit, nous empêche de devenir et d'être un disciple de l'Éternel. Certains se demandent, mais j'ai demandé telle bénédiction matérielle au Seigneur, je sais que j'y ai le droit, pourquoi ne l'ai-je pas encore vu ? Dans sa grâce, Dieu ne l'a pas permis parce qu'il sait que nous ne pourrions pas gérer un tel bien. Il a entendu, il va nous le donner, mais n'oublions pas, bien-aimé, le Seigneur nous dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la prospérité sans prendre le temps d'aligner leurs émotions, leur volonté, leur intelligence sur le rabbin Jésus. Et ça finit par nous tuer ces choses-là. Un disciple de l'Éternel, c'est quelqu'un qui comprend à quoi servent les biens matériels. Ah, c'était le moment de dire « prêche pasteur ». Un homme de Dieu, Tozer, a dit « Tout est sûr. Si ce que nous lui remettons est en sécurité et rien n'est en sécurité si nous ne le lui remettons pas. » Il y a une parole intéressante qui a été donnée, verset 29 à 32. Et j'ai fini. Hein. Verset 29 à 32 de Luc, chapitre 14. Hein. Parce qu'il y a cette phrase qui est intéressante, marcher avec Jésus. Vous savez, on ne marche pas avec Jésus qu'à l'église. Hein. On marche avec Jésus à la plage. Oui, Luc, chapitre 14. Non, vous ne voulez pas me le donner ? Versets 29 à 32, s'il vous plaît. Alors oui, je veux des images, donc quelquefois, ça veut dire que... Mais j'aime bien. Vous aimez avoir des images comme cela ? Ça aide ? Même le verset 28, si tu peux ajouter le verset 28 également... Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, hein, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Et tout le monde dirait, évidemment, si tu construis une maison, tu vas t'arranger pour finir de la payer. Tu vas déterminer d'abord le lieu, et puis ensuite la superficie, la qualité des matériaux en fonction de ce que tu peux payer, non? Et il est dit, de peur qu'avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever, ou quel roi, et on continuera, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Quand vous reprendrez ces versets chez vous, vous vous rappellerez que ces versets que je viens de lire sont en sandwich entre les versets où le Seigneur dit « s'il ne fait pas ci, il ne peut pas être mes disciples ». S'il préfère son père, sa mère, etc. à moi, il ne peut pas être mon disciple. S'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. S'il ne s'assure pas que ce qu'il a appartient au Seigneur, il ne peut pas être mon disciple. Et au milieu de cela, on a cette phrase. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ? Bien, c'est très simple, il est parlé de fondement. C'est-à-dire que si tu veux arriver au bout de ta destinée, il faudra que tu aies le fondement du disciple. Et également, il est parlé de cette tour, de ce roi. La Bible nous dit, mais tu vas pas te lancer dans une guerre si tu n'es pas déjà sûr que tu as les moyens de la gagner. Parce que si tu n'as pas les moyens de gagner la guerre et que tu te lances dans ce genre de situation, la Bible nous dit que tu finiras par demander la paix. C'est-à-dire, si quelqu'un veut suivre Jésus-Christ, et qu'il n'a pas le fondement du disciple, il finira par faire des compromis. Il finira par faire la paix avec le monde. Il finira par faire la paix avec les pressions. Comment ? En faisant des compromis. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a posé trois conditions radicales pour que nous vivions comme des disciples, que nous régnions dans la vie, que nous puissions aller jusqu'au bout de notre destinée, c'est radical, parce que ça fait partie des fondements de notre vie, de manière à ce que plus tard, nous ne vivions pas dans le compromis. Et si quelqu'un vit dans le compromis, alors c'est qu'il n'a pas réalisé à quel point le maître l'aime, à quel point le maître lui a tout donné. C'est quelqu'un qui n'a pas vu Jésus, qui n'a pas pris le temps de voir Jésus. Parce qu'à force de le voir, et on verra comment, lors des prochains cultes, à force de le voir, on finit par lui ressembler. C'est-à-dire la vie éternelle, la vie de Jésus qui est en nous, finit par se manifester à l'extérieur. On a tout à gagner à marcher avec Jésus. On a tout à gagner à accepter de lui ressembler. On a tout à gagner. Et quand quelqu'un dit « moi, je vais suivre Jésus », eh bien, Lisa a souvent donné cette phrase ces temps-ci, elle l'a donnée pour quelqu'un et je pense que c'était surtout pour elle, c'est « on va d'aventure en aventure, en aventure, en aventure, en aventure ». Beaucoup de disciples de Jésus ont une vie qui est médiocre parce qu'ils ont fait la paix avec le monde. Ça s'appelle la dimitude dans un autre langage. Ils ont fait des compromis. Et ils se demandent pourquoi leur vie, elle est plate. Pourquoi ils ont des peurs dans leur vie au lieu d'avoir cette assurance du disciple. Parce que peut-être qu'on est devenu des chrétiens. Ce mot est glorieux. Mais disciple, c'est le concept. Le disciple, c'est suivre l'enseignement de quelqu'un d'autre. Suivre l'enseignement au point de ressembler. N'oublions pas que Paul, lui, a dit, « Imitez-moi comme moi j'imite Christ. » Alors, peut-être qu'il y a certains qui sont au milieu de nous qui disent, « C'est pasteur, moi, c'est une année où je sens qu'il y a des choses formidables qui vont se passer. Moi, c'est une année, je veux vous rappeler du message, du premier message, les portails, il y a des portails qui sont devant nous, il y a des opportunités extraordinaires qui se présentent à nous cette année et on va les saisir. Le disciple est celui qui pourra les saisir. Celui qui a accepté que ses fondements soient placés. Sinon, ta vie en 2017 va ressembler à celle que tu as eue en 2016. On dit, Seigneur, fais en sorte, exauce cette prière. Mais lui, il n'y a pas de problème, le Seigneur exauce les prières. Mais si nous n'acceptons pas les changements qu'il nous demande de manière à pouvoir libérer les exaucements, ta vie, elle va ressembler à 2016. Moi, je ne veux pas que ma vie ressemble à 2016. Dans Deutéronome, quand il est dit, que tu seras toujours la tête et non la queue, ça veut dire aller de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Qui a envie de rester pareil? C'est ennuyeux. Même si mon année 2016, je l'ai trouvée magnifique. Vraiment, c'est une belle année. Mais alors, ça m'ennuierait de vivre 2017 comme 2016. C'est nul. Je ne veux pas m'arrêter là. Parce que Dieu est le Dieu de l'éternité. Il a autre chose à me montrer pour 2017. Amen. Et on va le voir. Et on va le voir. Alors, si tu dis, moi, tu sais, j'ai besoin, il y a quelque chose qu'il faut changer. Tu m'as parlé, dans ces cas-là, dans le nom de Jésus, lève-toi. Et ce sera un signe que tu dis à Dieu, moi, je veux des changements. Allez, ceux qui disent, moi, je veux des changements, c'est... Moi, je le veux. Seigneur, ne me laisse surtout pas, ne me laisse pas, Seigneur, où je suis. Allez, on élève nos voix à Dieu, Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Merci, bon Dieu, pour ces changements. Seigneur, apprends-nous. Saint-Esprit, tu es celui qui nous montre à quoi nous devons renoncer. Tu es celui qui nous montre, Seigneur, quelle relation d'amour avoir avec nos proches. Tu es celui qui nous montre, Seigneur, si les biens matériels sont en train de nous empêcher de te suivre. Saint-Esprit, je compte sur toi parce que tu es l'enseignant de l'Église. Je te remercie parce que nous sommes rendus conformes à l'image de Christ. Nous sommes semblables à lui, semblables à lui. Merci mon Dieu. Merci Père. Je prie afin, Seigneur, que cette parole que j'ai apportée, Seigneur, porte du fruit dans la vie de chaque personne qui l'entend, que ce soit directement, que ce soit par internet ou autre. Seigneur, que chaque personne, Seigneur, soit littéralement harcelée et qu'il se dise « Je veux la vie du disciple ». Je veux la vie du disciple. Seigneur, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Seigneur, tout ce que nous pouvons dire, c'est Seigneur, nous sommes ouverts, notre cœur est bien disposé. Maintenant, mon Dieu, toi, tu fais ton travail. Nous te laissons faire ton travail en nous, au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, quel disciple de l'Éternel est à mes côtés?